On a souvent cette image en tête, tu sais. On imagine des figures bibliques fondatrices comme des statues de marbre immaculées.
Ouais, des personnages complètement lisses, avec des motivations pures qui avancent avec une noblesse inébranlable.
Exactement. C'est une vision propre, très réconfortante. L'esprit humain adore quand l'héritage historique est bien rangé dans des petites boîtes morales évidentes.
Sauf que la réalité des textes, bah, elle est tout autre. Dès qu'on plonge dans les notes d'histoire de l'Ancien Testament du docteur Robert Van Hoy, cette illusion de perfection, elle vole complètement en éclats.
C'est clair. La statue de marbre, elle se fissure direct. Le paysage narratif se révèle super trouble, avec plein de zones d'ombre.
C'est la définition même des eaux troubles de la moralité humaine. Et c'est précisément ce qui rend l'étude de ces manuscrits si riche, en fait.
Et c'est en plein cœur de ces eaux-là qu'on plonge aujourd'hui pour notre analyse. On va s'appuyer sur les recherches du docteur Van Hoy pour décortiquer une période vraiment charnière, la fin du livre de la Genèse.
Tout à fait. Et notre point de départ, c'est le fameux chapitre 49, où le patriarche Jacob bénit ses fils sur son lit de mort. C'est un moment qui jette littéralement les bases de la royauté.
Mais le but de notre exploration, c'est d'aller encore plus loin. On veut décrypter comment ces textes anciens utilisent des prophéties super mystérieuses pour structurer des millénaires d'histoire.
Oui, tout en mettant en contraste la grandeur de ces promesses divines avec les failles morales absolument gigantesques des humains qui sont impliqués.
Parce que l'enjeu, il est de taille pour ceux qui nous écoutent. On va voir comment des trajectoires entières basculent sur l'ego surdimensionné d'un ado de 17 ans ou sur des scandales familiaux étouffés.
Ou même, et ça c'est fascinant d'un point de vue textuel, sur un simple mot hébreu qui a été mal compris pendant des siècles.
Ouais, c'est fou. Bon, d'accord, décortiquons un peu tout ça. Commençons par ce chapitre 49. Jacob rassemble ses 12 fils autour de son lit de mort. Pour moi, c'est comme un PDG fondateur qui convoque son conseil d'administration.
C'est une excellente analogie, le coup du PDG.
Bah oui, parce qu'il fait pas juste ses adieux, quoi. Il dicte carrément la stratégie de la boîte et la répartition des parts pour les 500 prochaines années. Comment des simples paroles prononcées dans une tente peuvent avoir un poids pareil?
Eh bien, il faut comprendre la dynamique de l'autorité patriarcale dans le Proche-Orient ancien. Ce que fait Jacob ici, c'est pas des vœux pieux. C'est pas un père qui dit « j'espère que vous réussirez ».
Donc c'est plus officiel?
Beaucoup plus. Ce sont des déclarations inspirées et prophétiques. Le terme académique, c'est programmatique. Il programme littéralement le destin de chaque tribu.
Waouh.
Et tout comme Noé l'avait fait des générations avant lui, les mots d'un patriarche avant sa mort ont une vraie force exécutoire. Ils définissent le statut juridique et spirituel de la lignée.
Ce qui soulève quand même une anomalie énorme dans l'histoire. Dans ce fameux plan d'affaires, normalement, la plus grosse promotion devra revenir au fils aîné, Ruben.
Logiquement, oui. Le leadership absolu devrait lui revenir.
Sauf que le texte nous dit que les trois premiers fils sont disqualifiés à cause de leurs actes passés, genre l'inceste pour l'un et des massacres aveugles pour les deux autres.
C'est ça. Le leadership y tombe presque par défaut sur les épaules du quatrième fils. Et ce quatrième, c'est Judas.
Et la bénédiction qu'il reçoit, elle est d'une intensité incroyable.
Une intensité sans précédent, ouais. Dans les versets 8 à 12, Jacob décrit une suprématie totale. Il déclare que les frères de Judas se prosterneront devant lui. La métaphore utilisée, c'est celle du lionceau.
Le prédateur alpha par excellence.
Exactement, le symbole de l'autorité incontestable. Mais le point d'ancrage le plus important, c'est un objet spécifique, le sceptre. Jacob affirme que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas.
C'est la toute première fois qu'on parle d'une lignée royale dans la Bible, non?
C'est l'introduction explicite d'une royauté légitime, le tout à fait.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un point de friction. Si on se remet dans le contexte de l'Antiquité, un roi, c'est pas un idéal romantique. C'est souvent un tyran, un despote qui a servi le peuple.
Comme les pharaons en Égypte ou les rois en Mésopotamie.
Voilà. Donc, voir la royauté présentée ici de manière si positive et divine, c'est presque contradictoire. Surtout que, des siècles plus tard, quand les Israélites réclament un roi dans le livre de 1 Samuel, c'est vu comme une trahison monumentale. Pourquoi la Genèse valide le trône, du coup?
C'est une super question, et les notes de Van Hoy dissipent cette confusion qui est très tenace. Beaucoup de gens lisent un Samuel et pensent que la royauté était une erreur, genre un plan B que Dieu a concédé à contre-cœur.
Alors que c'est pas le cas.
39 prouve le contraire. La royauté, elle faisait partie du plan originel. C'était l'institution par laquelle le souverain messianique allait se manifester au monde.
Ce qui veut dire que le problème dans 1 Samuel, c'est pas d'avoir un roi, mais les motivations derrière leur demande.
Absolument. Le peuple y demande pas un roi selon le modèle de Judas. Ils disent « On veut un monarque pour être comme les autres nations, un chef de guerre pour se battre à notre place. »
Ah, je vois. C'est une motivation assimilationniste.
C'est ça qui est condamné. L'institution royale en elle-même, c'était le plan divin depuis le début.
La nuance est capitale. Le trône est prévu, mais selon des critères précis. Et ça nous amène de plein pied dans la controverse de traduction autour du verset 10, le fameux débat sur Shiloh.
Ah oui, le cas de Shiloh, c'est un cas d'école dans l'histoire de la traduction.
Parce que dans les vieilles traductions, genre la King James ou les anciennes Bibles françaises, on lit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne », avec une majuscule.
C'est le personnage mystère.
Oui, et pendant des siècles, des érudits comme Carl Friedrich Keil, au XIXe siècle, ils ont défendu l'idée que c'était un titre messianique. Ils rattachaient ça à la racine hébraïque « shalom », qui veut dire « tranquillité »,« repos ».
Comme dans « shalom », la paix.
Voilà. Donc pour eux, Shiloh, c'était le pacificateur. C'est une interprétation théologique super belle qui a nourri plein de cantiques.
C'est clair que poétiquement, l'image du pacificateur qui vient prendre le trône, ça a de la gueule. Mais aujourd'hui, si on ouvre une traduction moderne, le mot Shiloh, il a complètement disparu.
Envolé, oui. À la place, on lit « jusqu'à ce que vienne celui à qui le sceptre appartient ». Comment on passe d'un nom propre à une simple phrase descriptive ?
Bah, ça s'explique par une bien meilleure compréhension de la grammaire hébraïque et par la comparaison avec les manuscrits anciens. Les chercheurs ont remarqué qu'aucune traduction antique, ni la Septante grecque, ni les Targums araméens, ne considéraient Shiloh comme un nom.
Sérieux ? Mais d'où vient la phrase alors ?
La clé, c'est une sorte de pierre de rosette biblique dans le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 21, Ézéchiel prononce un jugement sur Jérusalem et il utilise une allusion directe à la Genèse. Il dit que la couronne sera retirée jusqu'à ce que vienne celui à qui le droit appartient.
Donc Ézéchiel, qui écrit des siècles plus tard, il cite la Genèse mais en expliquant la grammaire.
C'est exactement ça la mécanique. En hébreu, ce qu'on a lu plus tard comme Shiloh, c'est en fait un mot composé, une contraction. Tu prends le pronom Asher, qui veut dire qui ou à qui.
D'accord.
Et tu le fusionnes avec Lo, qui veut dire à lui. Asher plus Lo, ça donne Shelou. Littéralement, celui à qui cela appartient.
C'est fascinant pour ceux qui suivent cette analyse de voir l'impact massif d'une simple contraction hébraïque sur la théologie de plusieurs siècles. Mais au final, que ce soit le pacificateur ou celui à qui ça appartient, le résultat est le même, non ?
Tout à fait. La mécanique change, mais la portée messianique reste inébranlable. La lignée de Juda garde le trône au chaud jusqu'à l'arrivée de l'héritier légitime.
Mais là où l'ironie narrative est très forte, c'est qu'après avoir mis Juda sous les projecteurs avec cette promesse cosmique, on s'attendrait à ce que la jeunesse continue de parler de Juda.
Eh ben non.
Non. Le texte fait un virage hyper brutal au chapitre 37. Et ce virage, il est signalé par un mot très spécifique, tolédote.
Le mot tolédote, il est fondamental. C'est la charpente de la Genèse. On le traduit par « voici l'histoire de » ou « voici la postérité de ». À chaque fois qu'il est utilisé, boum, c'est une transition profonde, un changement d'air.
Et au chapitre 37, ça dit « voici l'histoire de Jacob ». Sauf que, juste après avoir annoncé ça, le texte se met à parler exclusivement de Joseph.
Oui, c'est un dézoom cinématographique massif. On sort des querelles de famille dans les tentes pour entrer dans un drame géopolitique qui va englober l'Égypte entière.
C'est comme dézoomer sur Google Maps.
Mais pourquoi ce changement de focale ? Parce que l'expérience personnelle de Jacob, c'est plus le sujet. L'enjeu maintenant, c'est la mutation de cette famille hyper toxique en une nation entière. Une nation qui va passer 430 ans en Égypte. Et pour ça, il fallait un vecteur.
Et ce vecteur, bah, c'est Joseph. Mais il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur lui. Parce que la pop culture, elle en a fait un héros parfait. Sauf que le texte nous décrit un ado de 17 ans, franchement insupportable.
Ah ça, il a un côté tête à claque, c'est sûr.
Il rapporte tout à son père. Et surtout, il fait ses rêves prophétiques où tout le monde se prosterne devant lui. Et le gars, il trouve rien de mieux que de les raconter à toute sa famille au petit déjeuner. Niveau intelligence émotionnelle, on est à zéro, quoi.
C'est clair qu'avoir raison sur le fond, ça excuse pas son arrogance sur la forme. La psychologie de Joseph, elle est très complexe. Il a des vraies révélations, mais il gère ça avec l'immaturité du fils chouchou.
Celui avec la fameuse tunique multicolore.
Exactement. Et ce manque de tact, ça déclenche une haine fratricide prévisible. Ses frères finissent par le jeter dans une citerne et le vendre comme esclave.
Et là commence sa descente aux enfers en Égypte, où son caractère va vraiment être forgé par l'injustice.
Oui, il passe par des épreuves terribles.
D'ailleurs, L'un des moments les plus psychologiquement violents, c'est quand il est en prison avec l'échanson du pharaon. Joseph interprète son rêve, il lui annonce qu'il va retrouver son poste et il lui demande juste une chose.
Une petite faveur, oui. Parle de moi au pharaon, aide-moi à sortir d'ici.
Et l'échanson sort, il retrouve ses privilèges. Et la fin du chapitre est glaçante. Il dit juste, il l'oublia. Pendant 2 ans. C'est terrifiant de voir à quel point on peut vite oublier la détresse de quelqu'un dès que notre propre confort est assuré.
L'auteur biblique met vraiment le doigt sur la nature humaine. Il ne s'attarde pas sur les larmes de Joseph. Le simple décompte du temps, 2 ans, ça suffit à montrer le désespoir.
Mais finalement, grâce au rêve du pharaon sur la famine, Joseph sort de prison et devient vice-roi d'Égypte. Il sauve le monde connu et sa famille avec.
Un retournement de situation spectaculaire.
Tellement spectaculaire que beaucoup de commentateurs voient Joseph comme le type parfait du Christ. Genre la préfiguration sans défaut de Jésus. Mais les notes de Vanhoeil, elles mettent un gros coup de frein à ça, non?
Un très gros coup de frein. Vanhoeil cite le théologien hollandais N.H. Riderboos, qui alerte sur les dangers d'allégoriser à outrance. L'approche typologique, elle a ses limites.
C'est-à-dire?
Riderboos rappelle un fait irréfutable. Nulle part dans tout le Nouveau Testament, Joseph n'est appelé un type du Christ. Jamais.
Ah ouais, jamais.
Non, jamais. Bien sûr, il y a le thème de l'abaissement puis de l'élévation, mais Joseph reste très humain avec ses propres failles. Plus tard, la façon dont il manipule ses frères en cachant des coupes dans leurs sacs pour les terroriser, c'est un homme qui lutte encore avec son ressentiment.
Il galère à pardonner, quoi. Ce qui nous ramène à la réalité de ces textes, ils construisent pas des héros en carton. Et ça explique la structure narrative la plus choquante de toute cette section.
Tu parles du chapitre 38 ?
Ouais, c'est un montage littéraire de malade. Au chapitre 37, Joseph est vendu comme esclave. Le suspense est à son comble. Et paf ! Au chapitre 38, l'auteur interrompt tout pour nous balancer une histoire sordide sur Judas. Pourquoi placer la pire défaillance morale de Judas juste là ?
C'est pour créer un contraste intentionnel et d'une ironie féroce. D'un côté, tu as Joseph en Égypte qui résiste aux tentations, et de l'autre, Judas, le détenteur du sceptre, qui sombre dans la turpitude avec sa belle-fille Tamar.
Parce que l'histoire de Tamar, elle montre bien les structures de l'époque. Judas refuse de lui donner son plus jeune fils en mariage, après le décès de son mari.
Le fameux mariage léviratique, oui.
Et ce refus, c'est pas juste vexant. Pour une femme sans marier, à l'époque, c'est une condamnation à mort économique et sociale.
Elle n'a plus aucun filet de sécurité.
Donc Tamar, elle recourra à une méthode extrême. Elle se déguise en prostituée sur le bord du chemin.
Et le grand Judas, celui qui est censé être la lignée du roi de justice. Il tombe dans le piège direct. Il l'utilise sans la reconnaître et comme il n'a pas d'argent sur lui, il laisse des objets en gage.
Son seau, son cordon et son bâton.
Voilà. C'est littéralement comme laisser sa carte d'identité sur la scène d'un crime.
Ce qui rend la suite tellement hypocrite. 3 mois après, on dit à Judas « Hé, ta belle-fille est enceinte hors mariage ». Et le mec qui a lui-même été voir une prostituée sur le bas-côté, il s'érige en juge suprême et ordonne qu'elle soit brûlée vive.
L'indignation morale du vrai coupable, c'est un classique. Mais le dénouement, c'est un chef-d'œuvre.
Quand elle sort les objets...
Oui. Sur le chemin du bûcher, elle lui envoie le seau et le bâton. Le message est clair, le père, c'est le propriétaire de ça. Effondrement total de Judas. Il est forcé d'avouer publiquement.
Il dit la fameuse phrase « Elle est plus juste que moi ».
C'est ça. Et de cette union hyper scandaleuse va naître Pérez, qui est l'ancêtre direct de David et donc du Messie.
Et le fait que l'auteur ait gardé ce scandale juste au milieu de l'histoire de Joseph, ça explique le projet du livre. La promesse du sceptre, elle repose pas sur la pureté de Judas.
C'est presque contre-intuitif. La rédemption avance à travers le chaos moral absolu des pères fondateurs.
Les rédacteurs ont fait 0 effort de relations publiques pour protéger leur tribu.
0. La fidélité du plan transcende les failles des individus.
Ce qui nous laisse avec une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. D'un côté, on a ce grand plan prophétique. De l'autre, une famille ravagée par la jalousie, l'arrogance et l'hypocrisie.
La réalité sans filtre, quoi.
Exactement. Ces textes antiques y font le choix délibéré de surexposer les pires travers de leur figure de proue. Alors si les rédacteurs de l'Antiquité étaient si à l'aise avec la corruption morale de leurs héros...
Qu'est-ce que ça dit sur nous ?
Voilà. Qu'est-ce que ça révèle sur notre tendance moderne à vouloir constamment aseptiser l'histoire ou annuler des figures historiques dès qu'elles montrent des défauts humains ? La perfection, ça n'a jamais été le moteur de l'histoire.
Une très bonne pensée à garder en tête quand on regarde nos propres statues de marbre aujourd'hui.
C'est clair. C'était notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ces eaux troubles.